Chapitre 11. Le randonneur des vagues navigua vers le sud une semaine durant. Alors que le capitaine Ellie dédaignait les plus grandes cités portuaires de l'Ancien Monde, Nietzsche s'inquiéta de l'altération des courants, des vents et de la configuration des astres. « Nous sommes perdus ? » demanda-t-elle un après-midi. Campée à la proue du navire, Ellie nettoya l'embout de sa pipe entre son pouce et son index, puis la remit en bouche. « Dame magicienne, je sais très exactement où je vais. Nous filons vers les récifs. »
« Voilà une façon inquiétante de présenter les choses, » intervint Nathan.
Bénéficiant d'un vent favorable, le randonneur avançait très vite.
« Pas quand on sait où on va, » modéra le capitaine.
« Comment pouvez-vous le savoir ? » insista Nietzsche. « À vous entendre, les cartes et les courants ne sont plus fiables. »
« C'est vrai, mais je suis un marin, et dans mes veines, de l'eau salée coule à la place du sang. C'est une affaire d'instinct. Avant de pouvoir faire du commerce à Sérimundi ou au port de Lefton, je dois embarquer ma plus précieuse cargaison. Demain matin, vous verrez ce que je veux dire. »
Le capitaine ne s'était pas trompé. Affecté à la vigie, Bannon beugla sans casser les cordes vocales.
« Une ligne d'écume droit devant, capitaine. On dirait des remous. »
Ellie plissa les yeux et se pencha en avant près de la figure de proue.
« Les récifs » annonça-t-il.
Les cinq parasites se levèrent comme s'ils émergeaient d'un très long sommeil.
« On a besoin de nous !»
dit le costaud nommé Sol. Apparemment, c'était le chef. Elgin s'étira paresseusement.
« Je vais chercher les cordes et les lestes. »
Les trois autres, Pell, Buna et Rome, inspirèrent à fond puis firent des étirements. Vu la taille de leur torse, Nietzsche supposa que ces plongeurs, dotés d'énormes poumons, pouvaient rester sous l'eau très longtemps. Buna riva les yeux sur la magicienne.
« Si la pêche est bonne, la jolie dame exaucera peut-être nos vœux ?»
Nathan se dressa sur ses ergots, mais Nietzsche ne perdit pas son calme.
« Si mes souhaits sont exaucés, vous n'aurez plus la possibilité physique d'assouvir vos envies, les gars ?»
Même sans carte, Ellie guida aisément le navire dans la zone de turbulence. Habilement, il contourna des récifs dangereux, puis ordonna qu'on ramène les voiles. Lorsque le randonneur fut immobilisé, les marins jetèrent l'ancre dans un endroit abrité des remous. Sous l'œil curieux du reste de l'équipage, les plongeurs achevèrent leurs préparatifs.
« On descend deux par deux, » dit Sol. « Je commence avec Elgin, puis ce sera au tour de Rome et Pell. Après, je serai assez reposé pour repartir avec Buna. »
Il plia les bras pour faire saillir ses impressionnants pectoraux ornés d'une série de cercles tatoués. Les plongeurs ouvrirent un gros pot de graisse et s'en enduisirent la peau. Dans les profondeurs, entre les récifs, cette précaution les aiderait à conserver leur chaleur corporelle. Selon Rome, qui s'en tartina plus généreusement que les autres, ça permettait aussi de mieux glisser dans l'eau. Bien que les cinq plongeurs arborent des tatouages similaires, certains avaient plus de cercles que d'autres. Chaque cercle, avait appris Nietzsche, représentait un coffre entier de perles souhaits remontées à la surface. Vétéran aguerri, Sol avait dû se faire tatouer une autre ligne sur le côté droit de la poitrine. Les cinq hommes portaient une ceinture tressée, équipée de crochets, pour qu'on puisse y accrocher des poids et un sac de toile où ranger les perles. Sol et Elgin attachèrent à leur ceinture une corde dont l'autre extrémité serait fixée au grand mât. Puis, ils montèrent sur le bastingage, en équilibre instable, et se lestèrent afin d'être entraînés vers le fond sans perdre de temps. Leur plongée terminée, ils se débarrasseraient des poids pour remonter plus vite. Après s'être remplis les poumons d'air, ils plongèrent en même temps sans s'être consultés. Derrière eux, la corde se déroula. Très calme, l'air satisfait, Ellie gratta son collier de barbe.
« Nous mouillerons ici un jour ou deux, le temps de remplir nos coffres. »
« Un coffre contient beaucoup de perles souhaits, » fit remarquer Nathan.
« Beaucoup, oui. »
Le capitaine retira sa casquette, se passa une main dans les cheveux, puis remit le couvre-chef. Après quelques minutes, Bannon se pencha pour voir si les deux plongeurs revenaient. Imperturbables, Rome et Pell étaient déjà prêts à prendre la relève de leurs camarades.
« Vous croyez que je pourrais devenir pêcheur de perles un jour ?»
leur demanda Bannon.
Rome le regarda comme s'il était un cafard. « Non !»
Dépité, le jeune homme continua néanmoins son délo.
« Les voilà !»
Sol et Elgin revinrent à la surface. inspirèrent à fond et secouèrent la tête pour chasser l'eau de leurs longs cheveux.
Près de 10 minutes ?
Nietzsche s'étonna que ces hommes aient pu rester si longtemps sans respirer. À l'évidence, leur capacité pulmonaire était au niveau de leur arrogance. Une fois revenus sur le pont, Sol et Elgin vidèrent leurs sacs en faisant tomber des dizaines de coquillages à la forme étrange. On eût dit des mains croisées pour une prière.
« Douce mer la mer, quelle belle pêche !» se réjouit le capitaine. « Impressionnant !»
Les marins approchèrent et entreprirent d'ouvrir leurs coquillages avec leurs couteaux. Dans chacun, ils trouvèrent une perle souhait. Alors que Rome et Sol plongeaient, Sol fit un sourire libidineux à Nietzsche.
« En échange d'une récompense, je t'offrirai volontiers une perle souhait. »«
J'en ai déjà une, » répliqua Nietzsche.
« Donné par Bannon. »
Le plongeur eut un grognement dégoûté. Quand Rome et Pelle remontèrent, eux aussi bien chargés de perles, Sol et Bouna les remplacèrent. Des heures durant, les plongeurs se relayèrent pendant que les matelots ouvraient les coquillages et leur volaient leurs trésors. Intrigué, Nathan ramassa une des coquilles ouvertes.
« Remarquable ! On dirait des mains qui tiennent la perle pour la protéger. »«
Des mains croisées pour faire un vœu ?»
souffla Bannon. Pour Nietzsche, les doigts imparfaitement formés semblaient surtout défendre jalousement la perle.
« Ce récif regorge de coquillages, » dit Bouna après sa troisième plongée. « Il y en a assez pour une centaine de voyages. »«
Et nous reviendrons, »
promit Ellie. Étant en partie payés avec des perles, les marins incitèrent les cinq hommes à multiplier les plongées. Aux anges, Nietzsche regarda ses buteurs s'épuiser enfin au travail. À la fin de la journée, tandis que le soleil sombrait à l'horizon, les plongeurs perdirent un peu de leur enthousiasme. Alors que Sol, Elgin et Rome renaclaient, Pelle et Bouna acceptèrent d'effectuer une dernière rotation. Lestés, cordes attachées à la ceinture, ils sautèrent dans l'eau. Les matelots s'assirent sur le pont et jetèrent par-dessus bord les coquilles vides. Pelle et Bouna ne remontant toujours pas, Nathan se mit à faire les 100 pas. Le capitaine aussi semblait inquiet. Sourcils froncés, Sol alla sonder les eaux sombres.
« On les remonte »
cria-t-il. Il s'empara d'une des deux cordes et Bannon se chargea de l'autre. Bannon sentit la corde se tendre, puis elle défila entre ses doigts, lui brûlant les paumes. Criant de douleur, il lâcha prise et la corde alla percuter la coque du navire. Quelque chose l'entraînait vers le fond.
« Aucun plongeur ne peut tirer si fort !»
dit Sol, tous ses muscles bandés. La deuxième corde subit pourtant le même sort que la première. Rome et Elgin vinrent aider à remonter leurs camarades, mais l'attraction à l'autre bout des cordes devint si forte que le randonneur en tanga.
« Il faut les sortir de là !»
cria Sol. Soudain, les deux cordes se cassèrent et flottèrent dans l'eau comme des algues à la dérive. Tirant frénétiquement, les sauveteurs les remontèrent jusqu'à ce que l'extrémité de la première apparaisse.
Pourquoi auraient-ils coupé leurs cordes ?
Demanda Elgin. Bannon étudia l'extrémité du filin.
C'est mâchouillé, pas coupé.
Nietzsche comprit aussitôt ce qui s'était passé.
Quelque chose a mordu ces cordes.
Alors que les sauveteurs repêchaient la seconde corde dans le même état que la première, Rome sauta sur le bastingage, prêt à plonger pour secourir ses camarades. Mais au bout de cette corde, toujours attachée à une ceinture, il n'y avait plus que des lambeaux de chair et ce qui semblait être un fragment de colonne vertébrale. À croire qu'une mâchoire géante avait coupé le plongeur en deux avant d'emporter son trophée. Les marins crièrent de terreur et reculèrent.
« Mais comment ?»
Basculant en arrière, Rome se laissa retomber sur le pont.
« Nous n'avons rien vu sous l'eau !»«
Pelle et Bouna ont été tués !»
dit Sol.
« Par qui ?»
Elgin foudroya Nietzsche du regard.
« La maîtresse de la mort a peut-être invoqué un monstre !»
Les trois plongeurs survivants regardèrent la magicienne avec horreur, puis de la haine brilla dans leurs yeux.
« Tu l'as fait ?»
souffla Bannon à l'oreille de Nietzsche.
« Comme tu as tué les voleurs en ville ?»
Nietzsche écarta d'un geste les divagations du jeune homme. In petto, elle se félicita que les plongeurs aient peur d'elle. Sinon, il aurait fallu se battre.